Chapitre 13, la commission d'enregistrement des nez moldus.
« Ah, Mafalda !» dit Ombrage en voyant Hermione. « C'est Travers qui vous a envoyé, n'est-ce pas ?»«
Oui, couina Hermione.
« Mais c'est très bien, vous ferez ça parfaitement !»
Ombrage s'adressa au sorcier vêtu de noir et or.
« Voilà un problème résolu, monsieur le ministre !» Et s'il est possible de transférer Mafalda pour qu'elle consigne les interrogatoires, nous pourrons commencer tout de suite.
Elle consulta son bloc-notes.
10 personnes aujourd'hui, et l'une d'elles est la femme d'un de nos employés. Vous vous rendez compte, hein? Même ici, en plein cœur du ministère.
Elle pénétra dans la cabine à côté d'Hermione, suivie par les deux autres sorciers qui avaient écouté sa conversation avec le ministre.
« Nous allons descendre directement, Mafalda. Vous trouverez tout ce dont vous aurez besoin dans la salle d'audience. Bonjour, Albert. Vous ne vous arrêtez pas à cet étage ?»«
Si, bien sûr, » répondit Harry avec la voix grave de Runcorn.
Il sortit de la cabine et les grilles dorées se refermèrent derrière lui dans un cliquetis. Jetant un regard par-dessus son épaule, il vit Hermione, le visage anxieux, disparaître dans les profondeurs, encadré des deux sorciers de haute taille, le nœud en velours d'Ombrage lui arrivant à l'épaule.
« Qu'est-ce qui vous amène ici, Runcorn ?»
demanda le nouveau ministre de la magie. Sa barbe et ses longs cheveux noirs étaient parsemés d'argent et son grand front bombé projetait une ombre sur ses yeux étincelants. Harry eut l'impression de voir un crabe qui le regardait sous un rocher.
« J'avais un mot à dire à... »
Harry hésita pendant une fraction de seconde.
« Arthur Wesley, quelqu'un m'a dit qu'il était au niveau 1. »«
Ah !» dit Pius Thickness. Leur est-on surpris à entrer en contact avec un indésirable ?»«
Non, » répondit Harry, la gorge sèche. « Non, non, il ne s'agit pas de ça. »«
Oh, ce n'est qu'une question de temps, » assura Thickness. « Si vous voulez mon avis, les traîtres à leur sang sont aussi détestables que les sangs de bourbe. Bonne journée, Runcorn. »«
Bonne journée, monsieur le ministre. »
Harry regarda Thickness s'éloigner le long du couloir au sol recouvert d'une épaisse moquette. Dès que le ministre fut hors de vue, Harry tira de sous sa lourde cape noire sa cape d'invisibilité dont il s'enveloppa et suivit le couloir dans la direction opposée. Runcorn était si grand que Harry devait se baisser pour être sûr que ses pieds ne dépassent pas de la cape. Il sentit la panique lui contracter l'estomac. À mesure qu'il passait devant une succession de portes en bois verni, chacune portant une petite plaque qui indiquait le nom et la fonction de l'occupant du bureau, la puissance du ministère, sa complexité, son impénétrabilité s'imposaient à lui avec une telle force que le plan mis au point avec Ron et Hermione au cours des 4 dernières semaines lui parut soudain d'une puérilité risible. Tous leurs efforts avaient consisté à trouver un moyen d'entrer sans être repérés. Ils n'avaient jamais pensé à ce qu'ils devraient faire si jamais ils étaient obligés de se séparer. À présent, Hermione se retrouvait coincée dans une salle d'audience à jouer les greffières, ce qui lui prendrait sûrement des heures. Ron se débattait avec des formules magiques dont Harry était sûr qu'elle le dépassait, la liberté d'une femme dépendant peut-être du résultat. Et lui-même errait dans les couloirs du dernier étage, tout en sachant parfaitement que sa proie venait de descendre dans l'ascenseur. Il s'arrêta, s'appuya contre un mur et s'efforça de prendre une décision. Le silence le pressait. Ici, il n'y avait aucune agitation, personne ne courait d'un air affairé. Les couloirs à la moquette pourpre étaient aussi feutrés que si on y avait jeté le sortilège d'Assurdiato. Son bureau doit se trouver à cet étage, songea Harry. Il semblait très improbable qu'Ombrage garde ses bijoux dans son bureau, mais d'un autre côté, il aurait été idiot de ne pas le fouiller pour s'en assurer. Il repartit donc le long du couloir sans croiser personne, à part un sorcier aux sourcils froncés, murmurant des instructions à une plume qui flottait devant lui en écrivant sur un morceau de parchemin. Harry, qui lisait à présent les plaques fixées aux portes, tourna un coin de mur. Au milieu du couloir suivant, il se retrouva dans un vaste espace ouvert où une douzaine de sorcières et de sorciers étaient assis côte à côte devant de petits bureaux assez semblables à des pupitres d'écoliers, mais aux surfaces mieux polies et dépourvues de graffitis. Harry s'arrêta pour les observer. Le spectacle avait quelque chose de fascinant. Ils agitaient leurs baguettes à l'unisson, la tournant entre leurs doigts, et des carrés de papier coloré volaient en tous sens, tels de petits cerfs-volants roses. Harry se rendit bientôt compte que ce manège répondait à un certain rythme, que les papiers suivaient la même trajectoire, et au bout de quelques secondes, il comprit qu'il assistait à la fabrication d'une brochure dont les papiers constituaient les pages. Une fois assemblées, pliées et collées par magie, elles se déposaient en piles bien nettes à côté de chaque sorcier. Harry s'approcha en silence, mais les employés affairés étaient de toute façon si absorbés par leurs tâches qu'ils n'auraient pu entendre le bruit de ses pas étouffés par la moquette. Il parvint ainsi à subtiliser l'une des brochures en la prenant sur une pile posée à côté d'une jeune sorcière et l'examina sous sa cape d'invisibilité. Sa couverture rose était gravée d'un titre en lettres d'or. « Les sangs de Bourbe » et les dangers qu'il représente pour une société de sang pur, désireux de vivre en paix. Sous le titre, on voyait l'image d'une rose rouge, avec au milieu de ses pétales, un visage minaudant, étranglé par une liane verte aux dents pointues, à l'air sinistre. La brochure ne portait pas de nom d'auteur, mais, cette fois encore, les cicatrices sur le dos de sa main droite le picotèrent quand il contempla la couverture. La jeune sorcière confirma ses soupçons lorsqu'elle déclara sans cesser d'agiter et de tourner sa baguette.
« Est-ce que quelqu'un sait si la vieille harpie va passer toute la journée à interroger des sangs de Bourbe ?»«
Attention à ce que tu dis !» répliqua le sorcier assis à côté d'elle en jetant autour de lui des regards inquiets.
L'une de ses pages glissa et tomba par terre.
Tu crois qu'elle a aussi des oreilles magiques, en plus de son œil ?
La sorcière fit un signe de tête vers la porte d'acajou verni, face à l'entrée où travaillaient les fabricants de brochures. Harry regarda à son tour et sentit la rage se lever en lui, comme un serpent prêt à l'attaque. À l'endroit où l'on mettait généralement un Judas, sur les portes de Moldu, un gros œil rond, à l'iris d'un bleu vif, avait été serti dans le bois. Un œil qui aurait paru horriblement familier à quiconque avait connu Alastor Maugrey. Pendant une fraction de seconde, Harry oublia où il était et ce qu'il était venu y faire. Il oublia même qu'il était invisible. Il s'avança droit vers la porte et regarda l'œil de près. Il ne bougeait pas, tourné vers le plafond figé, le regard aveugle. Au-dessous, une plaque indiquait « Dolorès Ombrage, sous-secrétaire d'État auprès du ministre. » Un peu plus bas, une nouvelle plaque plus brillante précisait « Directrice de la commission d'enregistrement des nés moldus. » Harry se tourna à nouveau vers les 12 fabricants de brochures. Même s'ils étaient très concentrés sur leur travail, ils ne pouvaient imaginer qu'ils ne remarqueraient rien si la porte d'un bureau vide s'ouvrait toute seule devant eux. Il sortit, alors, d'une poche intérieure, un étrange objet doté de petites pattes remuantes et d'un corps en forme de trompe d'automobile avec une poire en caoutchouc. S'accroupissant sous la cape, il posa par terre le leurre explosif. L'objet fila aussitôt vers les jambes des sorciers qui se trouvaient devant lui. Harry attendit, la main posée sur la poignée de la porte. Quelques instants plus tard, une forte détonation retentit et un gros nuage de fumée âcre et noire s'éleva dans un coin. La jeune sorcière du premier rang poussa un cri perçant. Des pages roses volèrent de tous côtés et ses collègues bondirent de leurs chaises, cherchant autour d'eux l'origine de l'explosion. Harry tourna la poignée, entra dans le bureau d'ombrage et referma la porte derrière lui. Il eut l'impression d'avoir remonté le temps. La pièce était exactement semblable au bureau d'ombrage à Poudlard. Des étoffes agrémentées de dentelles, des napperons et des fleurs séchées couvraient chaque surface disponible. Les murs étaient décorés des mêmes assiettes ornementales, chacune représentant un chaton aux couleurs vives, le cou entouré d'un ruban qui gambadait et folâtrait dans les images d'une écœurante mièvrerie. Un tissu à fleurs bordé de volants recouvrait le bureau. Derrière l'œil de Maugret était fixé un mécanisme télescopique qui permettait à Ombrage d'espionner les employés de l'autre côté de la porte. Harry y jeta un coup d'œil et les vit tous regroupés autour du leurre explosif. Il arracha le télescope de la porte, laissant un trou dans le bois, ôta l'œil magique et le rangea dans sa poche. Puis il se tourna vers le centre de la pièce, leva sa baguette et murmura « Atchou médaillon !» Rien ne se produisit, mais il s'y était attendu. Ombrage devait connaître tous les sortilèges et charmes de protection. Il se précipita alors derrière le bureau et ouvrit les tiroirs. Il y trouva des plumes, des carnets, du sorcier collant, des trombones ensorcelés, levés comme des serpents qu'il fallait frapper pour les empêcher d'attaquer, une petite boîte tarabiscotée, recouverte de dentelles, pleine de nœuds et de pinces pour les attacher dans les cheveux, mais pas la moindre trace de médaillon. Derrière le bureau se trouvait également une armoire de rangement que Harry entreprit de fouiller. Tout comme les armoires de Ruzard à l'école, elle était remplie de classeurs dont chacun portait un nom inscrit sur une étiquette. Lorsqu'il arriva au tiroir du bas, Harry découvrit quelque chose qui le détourna de ses recherches. Le dossier de M. Wesley. Il le sortit et l'ouvrit. Arthur Wesley. Statut du sang. Sang pur, mais manifeste une attirance inacceptable pour les moldus. Connu pour être membre de l'ordre du Phénix. Famille. Marié, épouse sang pur, 7 enfants. Les 2 plus jeunes à Poudlard. Nota bene. Le plus jeune fils est actuellement alité chez lui en raison d'une grave maladie confirmée par les inspecteurs. Statut sécurité, étroitement surveillé. Tous ses déplacements sont sous contrôle. Forte probabilité que indésirable numéro 1 entre en contact avec lui. Il a déjà séjourné dans la famille Wesley. Indésirable numéro 1, marmonna Harry, en remettant en place le dossier de M. Wesley dans le tiroir qu'il referma. L'identité de celui qu'on appelait ainsi ne faisait guère de doute à ses yeux, et en effet, lorsqu'il se releva et jeta un regard autour de lui, il vit sur le mur une affiche qui le représentait avec la mention « Indésirable numéro 1 » en travers de la poitrine. Un petit papier rose orné dans un coin d'une image de chaton y était collé. Harry s'approcha et lut, de l'écriture d'ombrage, « à punir ». Plus furieux que jamais, il tâtonna au fond des vases et des paniers de fleurs séchées, mais ne s'étonna pas de ne pas y trouver le médaillon. Il promena une dernière fois son regard sur le bureau et sentit soudain son cœur faire un bond. Dumbledore le dévisageait dans un petit miroir rectangulaire posé sur l'étagère d'une bibliothèque à côté du bureau. Harry se précipita à l'autre bout de la pièce et s'en saisit. Mais dès qu'il eut posé la main dessus, il s'aperçut qu'il ne s'agissait pas du tout d'un miroir. Dumbledore lui souriait avec mélancolie sur la couverture glacée d'un livre. Harry n'avait pas tout de suite remarqué les lettres vertes et rondes tracées sur son chapeau. « Vie et mensonge d'Albus Dumbledore », ni celle légèrement plus petite en travers de sa poitrine, par Rita Skeeter, auteur du best-seller « Armando Dippet, maître ou crétin ». Harry ouvrit le livre au hasard et tomba sur la photo en pleine page de deux adolescents qui riaient de bon cœur en se tenant par les épaules. Dumbledore, dont les cheveux lui arrivaient jusqu'au coude, s'était fait pousser une minuscule barbiche semblable à celle que Ron avait trouvée si ridicule sur le menton de Crumb. Le garçon, qui éclatait d'un rire silencieux à côté de Dumbledore, avait un air joyeux et même déchaîné. Ses cheveux tombaient en boucles blondes sur ses épaules, et Harry se demanda si c'était le jeune Dodge. Mais avant qu'il ait pu lire la légende, la porte du bureau s'ouvrit. Si Thickness n'avait pas jeté un coup d'œil par-dessus son épaule au moment d'entrer, Harry n'aurait pas eu le temps de se cacher sous la cape d'invisibilité. Peut-être le ministre avait-il aperçu quelque chose, car pendant un instant il resta parfaitement immobile, son regard curieux fixé sur l'endroit d'où Harry venait de disparaître. Estimant qu'il avait sans doute vu Dumbledore se gratter le nez sur la couverture du livre que Harry avait précipitamment reposé sur l'étagère, il s'approcha du bureau et pointa sa baguette sur la plume plantée dans l'encrier. Elle bondit aussitôt sur une feuille et se mit à griffonner un mot pour ombrage. Très lentement, osant à peine respirer, Harry sortit du bureau à reculons en direction du grand espace qui s'étendait de l'autre côté de la porte. Les fabricants de brochures étaient toujours rassemblés autour des restes du leurre explosif qui continuait d'émettre de faibles coups de klaxon en laissant échapper de la fumée. Harry se roua dans le couloir tandis que la jeune sorcière disait à ses collègues
« Je parie que ce truc-là s'est échappé de la commission des sortilèges expérimentaux. Ils sont tellement négligents. Vous vous souvenez le canard venimeux ?»
Se dirigeant en hâte vers les ascenseurs, Harry révisa son plan. Il était très peu probable que le médaillon se trouve ici, au ministère. Et tant qu'elle resterait dans une salle d'audience bondée, il n'y avait aucun espoir de soumettre ombrage à un sortilège qui la forcerait à révéler l'endroit où elle l'avait caché. Leur priorité à présent était de quitter le ministère avant d'être découvert et de refaire une tentative un autre jour. Tout d'abord, ils devaient retrouver Ron. Ensuite, tous deux chercheraient un moyen de sortir Hermione de la salle d'audience. Lorsque l'ascenseur arriva à l'étage, il était vide. Harry sauta dans la cabine et ôta sa cape d'invisibilité pendant la descente. À son grand soulagement, quand l'ascenseur s'arrêta au niveau 2 dans son habituel bruit de ferraille, Ron, trempé et le regard effaré, se précipita à l'intérieur.
« Bonjour !»
balbutia-t-il au moment où l'ascenseur se remettait en marche.
« Ron, c'est moi, Harry !»« Harry ! Oh, par Merlin, t'avais oublié que tu avais cette tête-là. Et pourquoi Hermione n'est-elle pas avec toi ?»
Elle a été obligée de descendre dans les salles d'audience avec ombrage. Elle ne pouvait pas refuser. Mais avant que Harry ait pu finir sa phrase, l'ascenseur s'arrêta à nouveau. Les grilles s'ouvrirent et M. Weasley pénétra dans la cabine en compagnie d'une sorcière âgée dont les cheveux blonds étaient arrangés en un chignon si haut qu'il ressemblait à une fourmilière.
« Je comprends très bien ce que vous dites, Wakanda, mais j'ai bien peur de ne pouvoir participer à... »
M. Weasley s'interrompit. Il venait de remarquer la présence de Harry. Celui-ci éprouva une impression très étrange lorsqu'il vit que M. Weasley le regardait avec une véritable aversion. Les portes de l'ascenseur se refermèrent et la cabine reprit sa descente poussive en emportant ses quatre occupants.
« Ah, bonjour, Reg !»
dit M. Weasley qui s'était retourné en entendant le bruit des gouttes d'eau qui tombaient avec régularité de la robe de Ron.
« Ce n'est pas aujourd'hui qu'on devait interroger votre épouse, hein ? Et que vous est-il arrivé ? Pourquoi vous êtes tout mouillé ?»«
Il pleut dans le bureau de Yaxley, » répondit Ron.
Il s'était adressé à l'épaule de M. Weasley. Harry était sûr qu'il craignait d'être reconnu par son père si jamais il se regardait dans les yeux.
« Je n'ai pas réussi à arranger les choses, alors on m'a envoyé faire ses bernis. » « Bernie P. Swart, c'est ce qu'ils ont dit, je crois. »«
Ah oui, il y a eu beaucoup de pluie dans les bureaux ces derniers temps, » déclara M. Weasley. « Avez-vous essayé Meteorobilis recanto ? C'est ce qui a marché pour Bletchley. »«
Meteorobilis recanto ?
murmura Ron.
Non, je n'ai pas encore essayé. Merci, merci Arthur.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. La vieille sorcière aux cheveux en forme de fourmilière descendit et Ron fila à toutes jambes, passant devant elle et disparaissant au loin. Harry s'apprêtait à le suivre lorsque Percy Weasley, plongé dans des papiers, entra soudain dans la cabine et lui barra le passage. Ce fut seulement quand les grilles se refermèrent que Percy s'aperçut de la présence de son père dans l'ascenseur. Il leva les yeux de ses papiers, vit M. Weasley, rougit comme une tomate, et quitta la cabine dès que les portes se furent rouvertes. Pour la deuxième fois, Harry essaya de sortir, mais ce fut le bras de M. Weasley qui lui barra le passage.
« Un instant, Runcorn !»
Les grilles se refermèrent, et tandis que l'ascenseur poursuivait sa descente dans un bruit de ferraille, M. Weasley lança.
« J'ai entendu dire que vous aviez livré des informations concernant Dirk Cresswell. »
Harry eut l'impression que la désagréable rencontre avec Percy n'était pas la moindre cause de la colère de M. Weasley. Il estima que la meilleure chance de s'en sortir était de jouer les idiots.
« Pardon, » dit-il.
« Ne faites pas semblant, Runcorn, » répliqua M. Weasley d'un ton féroce.
« Vous l'avez traqué, parce qu'il a falsifié son arbre généalogique, n'est-ce pas ?»«
Je... Et alors, en admettant que ce soit vrai ?»«
Eh bien, Dirk Cresswell est un sorcier 10 fois plus doué que vous, » répondit M. Weasley à mi-voix,
l'ascenseur s'enfonçant davantage vers les étages inférieurs.
« Et s'il survit à Azkaban, vous aurez des comptes à lui rendre, sans parler de sa femme, de ses fils et de ses amis. »
« Arthur, » interrompit Harry, « vous savez que vous êtes surveillé. »«
C'est une menace, Runcorn ?»
interrogea M. Weasley d'une voix sonore.
« Non, » dit Harry, « c'est un fait. Ils épient le moindre de vos déplacements. »
Les grilles s'ouvrirent. Ils étaient arrivés à l'atrium. M. Weasley fusilla Harry du regard et sortit de la cabine. Harry resta immobile et ébranlé. Il aurait préféré prendre la place de quelqu'un d'autre que ce Runcorn. Les portes se refermèrent. Harry remit sur lui la cape d'invisibilité. Il allait essayer de faire sortir Hermione tout seul pendant que Ron s'occupait du bureau plus vieux. Lorsque les portes se rouvrirent, il s'avança dans un corridor au mur de pierre éclairé par des torches, très différent des couloirs lambrissés au sol recouvert de moquettes des étages supérieurs. L'ascenseur repartit et Harry trembla légèrement en contemplant au loin la porte noire qui marquait l'entrée du département des mystères. Sa destination, cependant, n'était pas cette porte, mais l'ouverture dont il se souvenait très bien et qui donnait à gauche sur une volée de marches menant aux salles d'audience. Il les descendit avec une grande précaution en réfléchissant à ses possibilités d'action. Il avait encore 2 leurres explosifs, mais peut-être vaudrait-il mieux frapper tout simplement à la porte de la salle, entrer sous l'apparence de Runcorn et demander s'il pouvait dire quelques mots en particulier à Mafalda. Bien sûr, il ne savait pas si Runcorn était suffisamment important pour que son stratagème réussisse, et même dans ce cas, l'absence prolongée d'Hermione risquait de déclencher des recherches avant qu'il n'ait eu le temps de sortir du ministère. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas tout de suite le froid anormal qui l'enveloppa soudain, comme s'il pénétrait dans une nappe de brouillard. Le froid s'intensifiait à chaque pas. Il lui descendait droit dans la gorge et lui déchirait les poumons. Il éprouva alors cette sensation d'accablement, de désespoir, qui s'insinuait dans son corps, l'envahissait, enflait en lui. « Des détraqueurs » pensa-t-il. Lorsqu'il atteignit le bas des marches, il tourna à droite et une vision d'épouvante s'étala sous ses yeux. Le passage obscur à l'extérieur des salles d'audience était rempli de hautes silhouettes noires encapuchonnées, le visage complètement dissimulé. On entendait d'autres sons que leur respiration semblable à un râle. Les sorciers, nés moldus, qu'on avait amenés là pour subir un interrogatoire, étaient assis, pétrifiés, tremblants, serrés les uns contre les autres sur des bancs de bois dur. La plupart se cachaient le visage dans les mains, essayant peut-être instinctivement de se protéger de la bouche avide des détracteurs. Certains étaient accompagnés de leur famille, d'autres restaient seuls. De leurs pas glissants, les détracteurs marchaient de long en large devant eux, et le froid, l'accablement, le désespoir s'abattirent sur Harry comme un maléfice. « Résiste !» se dit-il à lui-même. Mais il savait qu'il ne pouvait créer un patronus dans cet endroit sans se démasquer instantanément, et il se contenta de poursuivre son chemin le plus silencieusement possible. À chaque pas, son cerveau semblait s'engourdir un peu plus, mais il se força à penser à Hermione et à Ron, qui avaient besoin de lui. S'avancer au milieu de ces silhouettes noires, qui le dominaient de toute leur hauteur, avait quelque chose de terrifiant. Les visages sans regard, cachés derrière leurs capuchons, se tournaient vers lui sur son passage, et il savait qu'il percevait ses sentiments, qu'il sentait en lui une présence humaine habitée par un certain espoir, une certaine faculté de résistance. Puis, brusquement, dans un bruit terrible qui déchira le silence glacé, la porte de l'un des cachots s'ouvrit à la volée sur le mur de gauche, et on entendit des cris résonner de l'autre côté.
« Non, non, je suis de Sang-Mêlé, je suis de Sang-Mêlé, je vous le jure, mon père était un sorcier, vous pouvez vérifier, c'était un véritable sorcier, Archie Alderton, un ingénieur, en balai bien connu, vérifiez, je vous le dis, lâchez-moi, lâchez-moi » !»«
C'est le dernier avertissement !»
dit alors la voix doucereuse d'ombrage amplifiée par la magie pour couvrir les hurlements désespérés de l'accusé.
« Si vous vous rebellez, vous serez soumis au baiser du détraqueur !»
Les cris de l'homme s'évanouirent, mais des sanglots retentirent dans le couloir.
« Emmenez-le !»
dit Ombrage. Deux détraqueurs apparurent dans l'encadrement de la porte, leurs mains putréfiées, couvertes de croûtes, se refermant sur les bras d'un sorcier qui paraissait au bord de l'évanouissement. Ils l'emmenèrent le long du couloir, s'éloignant de leurs pas glissants, et l'obscurité qu'ils traînaient dans leur sillage engloutit le prisonnier.
« Suivante Marie Cattermole !»
appela Ombrage. Une petite femme se leva tremblant, de la tête aux pieds. Ses cheveux bruns tirés en un chignon, elle portait une longue robe très simple. Son visage était livide, et Harry la vit frissonner lorsqu'elle passa devant les détraqueurs. Il réagit instinctivement, sans aucun plan préconçu, parce qu'il ne pouvait supporter de la voir entrer seule dans le cachot. Lorsque la porte pivota sur ses gonds pour se refermer, il se glissa dans la salle d'audience, derrière la femme. Ce n'était pas la même salle que celle dans laquelle il avait été un jour interrogé pour usage abusif de la magie. Celle-ci était beaucoup plus petite, bien que haute de plafond. Elle donnait l'impression étouffante de se retrouver coincée au fond d'un puits. À l'intérieur, d'autres détraqueurs projetaient autour d'eux leur aura glaciale. Ils se tenaient debout, tels des sentinelles, sans visage, à chaque coin de la salle, à bonne distance de l'estrade surélevée. C'était là. Derrière une balustrade, Ombrage était assise, avec d'un côté Yaxley et de l'autre Hermione, dont le visage paraissait aussi pâle que celui de Mrs. Cattermole. Au pied de l'estrade, un chat, aux longs poils brillants et argentés, se promenait de long en large, allant, venant, repartant, revenant, et Harry comprit que sa présence était destinée à protéger les procureurs du désespoir qui émanait des détraqueurs. Seuls les accusés devaient le ressentir, pas leurs accusateurs.
« Asseyez-vous !»
dit Ombrage de sa voix douce veloutée. Miss Cattermole avança d'un pas vacillant vers le siège unique installé au milieu de la salle. Au bas de l'estrade, dès qu'elle se fut assise, des chaînes jaillirent dans un cliquetis des bras du fauteuil et l'immobilisèrent.
Appelez bien Marie-Elisabeth Cattermole ?»
demanda Ombrage. Mrs. Cattermole acquiesça d'un signe de tête tremblant.
« Épouse de Réginald Cattermole ?» obligatoirement du département de la maintenance magique ?
Mrs. Cattermole fondit en larmes.
« Je ne sais pas où il est. Il devait me retrouver ici. »
Ombrage ne lui prêta aucune attention.
« Mère de Maisie, Ellie et Alfred Cattermole ?»
Mrs. Cattermole sanglota de plus belle.
« Ils ont peur. Ils croient que je ne vais peut-être pas revenir. »«
Épargnez-nous vos pleurnichés !» lança Yaxley. « La marmaille des sangs de Bourbe ne nous inspire aucune compassion !»
Les sanglots de Mrs. Cattermole couvrirent les bruits de pas de Harry qui s'approcha précautionneusement des marches donnant accès à l'estrade. Dès qu'il eut franchi l'endroit où patrouillait le patronus en forme de chat, il sentit un changement de température. L'atmosphère devenait tiède, agréable dans cette partie de la salle. Le patronus, il en était sûr, était celui d'Ombrage, et s'il brillait d'un tel éclat, c'est qu'elle se sentait heureuse ici, dans son élément, appliquant des lois tordues qu'elle avait elle-même contribué à rédiger. Lentement, avec la plus grande prudence, il s'avança sur l'estrade dans le dos d'Ombrage, de Yaxley et d'Hermione, puis s'assit sur une chaise derrière celle-ci. Il craignait de la faire sursauter. Tout d'abord, il pensa jeter le sortilège d'Assurdiato sur Ombrage et Yaxley, mais le simple fait de murmurer la formule pouvait alarmer Hermione. Ombrage haussa la voix pour s'adresser à Mrs. Cattermole et Harry saisit alors sa chance. « Je suis derrière toi », murmura-t-il à l'oreille d'Hermione. Comme il s'y était attendu, elle sursauta si violemment qu'elle faillit renverser la bouteille d'encre avec laquelle elle était censée consigner l'interrogatoire. Mais Ombrage et Yaxley, tous deux concentrés sur Mrs. Cattermole, ne remarquèrent rien.
« Aujourd'hui, à votre arrivée au ministère, une baguette magique vous a été confisquée. Mrs. Cattermole !»
déclara Ombrage.
« 21,8 cm, bois de cerisier, crin de licorne. Reconnaissez-vous cette description ?»
Mrs. Cattermole acquiesça d'un signe de tête, s'essuyant les yeux à l'aide de sa manche.
« Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire à quel sorcier ou sorcière vous avez pris cette baguette ?»«
J'ai pris, »
sanglota Mrs. Cattermole.
Je ne l'ai prise à personne. Je l'ai achetée quand j'avais 11 ans. Elle m'a choisie. »
Elle pleura de plus belle. Ombrage émit un petit rire de fillette qui donna à Harry l'envie de l'attaquer. Elle se pencha en avant par-dessus la balustrade pour mieux observer sa victime. Et un objet en or, accroché à son cou, se mit alors à se balancer dans le vide. Le médaillon. Hermione le vit et laissa échapper un petit couinement, mais Ombrage et Yaxley, absorbés par leur proie, restaient sourds à toute autre chose.
« Non !»
dit Ombrage.
« Non ! Je ne crois pas, Mrs. Cattermole. Les baguettes ne choisissent que des sorcières ou des sorciers. Or, vous n'êtes pas une sorcière !» J'ai ici les réponses au questionnaire qui vous a été adressé. Mafalda, passe-les-moi.
Ombrage tendit sa petite main. En cet instant, elle ressemblait tellement à un crapaud que Harry fut surpris de voir que ses doigts courts et boudinés n'étaient pas palmés. Hermione, sous le choc, avait les mains qui tremblaient. Elle fouilla maladroitement dans une pile de documents posée en équilibre sur une chaise à côté d'elle et en retira enfin une liasse de parchemin sur laquelle était écrit le nom de Mrs. Cattermole.
« C'est joli, ça, Dolores, »
dit-elle en montrant le pendentif qui brillait sur le jabot du chemisier d'Ombrage.
« Quoi ?»
répliqua Ombrage d'un ton sec. Elle baissa les yeux.
« Ah oui !» Oh, c'est un vieux souvenir de famille,
expliqua-t-elle, tapotant le médaillon qui pendait sur son abondante poitrine.
Le S est l'initiale de Selwyn. Je suis parente des Selwyn. En fait, il n'y a guère de famille de sang pur avec lequel je n'ai pas de lien de parenté. Dommage!
Poursuivit-elle tandis qu'elle feuilletait le questionnaire rempli par Mrs. Cattermole.
Qu'on ne puisse pas en dire autant à votre sujet. Alors, oui, profession des parents, marchand de fruits et légumes.
Yaxley eut un rire moqueur. Au-dessous, le chat d'argent au pelage touffu continuait de marcher de long en large et les détraqueurs étaient toujours postés aux quatre coins de la salle. Ce fut le mensonge d'ombrage qui fit monter le sang à la tête de Harry et effaça en lui tout souci de prudence. Il ne supportait pas que le médaillon confisqué à un petit voleur en guise de dessous de table lui serve à se vanter de sa lignée de sang pur. Il brandit sa baguette sans même prendre la précaution de la maintenir cachée sous sa cape d'invisibilité et lança « Stupéfix !» Un éclair de lumière rouge jaillit. Ombrage s'affaissa, son front heurtant le bord de la balustrade. Les papiers de Mrs. Cattermole glissèrent de ses genoux et tombèrent sur le sol. Au pied de l'estrade, le chat argenté disparut. Aussitôt, un air glacé s'abattit sur eux comme une rafale de vent. Yaxley, désorienté, chercha autour de lui la source de ce désordre et vit la main sans corps de Harry pointer sur lui une baguette magique. Il tenta de tirer sa propre baguette, mais trop tard. « Stupéfix !» Yaxley s'effondra par terre, le corps recroquevillé.
« Harry !»«
Hermione, si tu crois que j'allais rester assis là et la laisser prétendre que... »«
Harry, Mrs. Cattermole !»
Harry fit volte-face, jetant sa cape d'invisibilité. En bas, dans la salle, les détraqueurs avaient quitté leur coin et s'avançaient de leurs pas glissants vers la femme enchaînée au siège des accusés. Était-ce parce que le patronus avait disparu ou parce qu'ils avaient senti que leur maître ne contrôlait plus la situation? En tout cas, ils avaient abandonné toute retenue. Mrs. Cattermole poussa un horrible cri de terreur lorsqu'une main visqueuse, couverte de croûte, l'attrapa par le menton et rejeta sa tête en arrière.
« Spero patronum !»
Le cerf argenté jaillit de la baguette de Harry et bondit sur les détraqueurs qui reculèrent et se fondirent à nouveau dans l'ombre. Le cerf galopa tout autour de la salle, et sa clarté, plus puissante, plus ardente que la protection du chat, réchauffa le cachot tout entier. « Prends leur crux !» dit Harry à Hermione. Après avoir fourré sa cape d'invisibilité dans son sac, il dévala les marches qui descendaient de l'estrade et s'approcha de Mrs. Cattermole.
« Vous !» murmura-t-elle en le dévisageant. « Mais Reg m'a dit que c'est vous qui vouliez que je sois interrogée !»
« Vraiment ?» marmonna Harry, qui tirait sur les chaînes pour essayer de la libérer. « Eh bien, j'ai changé d'avis. »« Diffindo !» Mais rien ne se produisit. « Hermione, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser de ces chaînes ?»«
Attends, je suis en train d'essayer quelque chose. »«
Hermione, on est cerné par les détraqueurs !»«
Je sais, Harry, mais si elle voit que le médaillon a disparu quand elle se réveillera, il faut que j'en fabrique un double. »« Gémino, voilà ! Elle devrait s'y laisser prendre !»
Hermione courut à son tour au bas des marches.
« Voyons, lâche la basque !»
Les chaînes cliquetèrent et rentrèrent dans les bras du fauteuil. Mrs. Cattermole avait l'air toujours aussi terrorisée.
« Je comprends pas !»
murmura-t-elle. « Vous allez partir avec nous, » répondit Harry en la relevant. « Rentrez chez vous, prenez vos enfants et allez-vous-en. Quittez le pays s'il le faut. Déguisez-vous et fuyez. Vous avez vu ce qui se passe. Vous n'aurez jamais droit à une vraie justice ici. »
« Harry !» « Comment allons-nous sortir avec tous ces détraqueurs qui attendent devant la porte ?» demanda Hermione.
« Des patronus !» répondit Harry. Il pointa sa baguette vers le sien, le cerf ralentit l'allure et marcha au pas en direction de la porte, brillant toujours d'un éclat étincelant. « Autant de patronus que nous pourrons en créer. Fais apparaître le tien, Hermione. »«
Spero patronum !»
lança Hermione, mais ce fut sans effet. « C'est le seul sortilège qu'elle ait du mal à réussir, » expliqua Harry à une Mrs. Cattermole abasourdie.
« Pas de chance. Allez, Hermione !»«
Spero patronum !»
Une loutre argentée surgit alors à l'extrémité de la baguette d'Hermione et s'envola avec grâce pour rejoindre le cerf.
« Venez !» dit Harry.
Il entraîna Hermione et Mrs. Cattermole vers la porte. Lorsque les patronus émergèrent de la salle, il y eut des cris de stupeur parmi ceux qui attendaient à l'extérieur. Harry regarda autour de lui. Les détraqueurs reculaient des deux côtés, se fondant dans l'obscurité, se dispersant devant les créatures argentées.
« Il a été décidé que vous deviez tous rentrer chez vous et vous cacher avec vos familles !»
annonça Harry au sorcier Némoldu, ébloui par la clarté des patronus et toujours un peu craintif.
« Partez pour l'étranger si vous le pouvez. Éloignez-vous le plus possible du ministère. C'est la nouvelle position officielle. Si vous suivez les patronus, vous pourrez quitter l'atrium. »
Ils parvinrent à remonter les marches de pierre sans que personne ne les arrête. Mais lorsqu'ils s'approchèrent des ascenseurs, Harry commença à s'inquiéter. S'il débarquait dans l'atrium avec un cerf argenté, une loutre qui volait à ses côtés et une vingtaine de personnes dont la moitié était accusée d'être des Némoldus, il risquait fort d'attirer sur eux une attention intempestive. Il venait d'en arriver à cette fâcheuse conclusion lorsque l'ascenseur s'arrêta à leur étage.
« Reg !»
s'écria Mrs. Cattermole, et elle se jeta dans les bras de Ron.
« Ron Korn m'a laissé sortir. Il a attaqué Ombrage et Yaxley et a conseillé à tout le monde de quitter le pays. Je crois qu'on devrait le faire, Reg. Je le crois vraiment. Dépêchons-nous de rentrer à la maison pour chercher les enfants et... Pourquoi es-tu tout mouillé ?»«
C'est de l'eau, » marmonna Ron en se libérant de son étreinte.
« Harry, ils savent qu'il y a des intrus dans le ministère à cause d'un trou dans la porte du bureau d'ombrage. Je pense que nous avons encore 5 minutes si... »
Le patronus d'Hermione se volatilisa avec un petit pop, tandis qu'elle se tournait vers Harry, l'air horrifié.
« Harry, si nous sommes coincés ici... »
« Ça n'arrivera pas si on se dépêche, » répliqua Harry.
Il se retourna vers le groupe des sorciers silencieux qui le regardaient bouche bée.
« Quels sont ceux qui ont une baguette ?»
La moitié d'entre eux leva la main.
« Bon, chacun de ceux qui n'ont pas de baguette se met avec quelqu'un qui en a une. Nous devons être rapides avant qu'ils nous arrêtent. Venez !»
Ils parvinrent à s'entasser dans 2 ascenseurs. Le patronus de Harry monta la garde devant les grilles dorées qui se refermaient. Les ascenseurs commencèrent à monter.
« Niveau 8 !»
dit la voix froide de la sorcière.
« Atrium !»
Harry sut aussitôt que les ennuis commençaient. L'atrium était rempli de sorciers qui allaient de cheminée en cheminée pour en condamner l'accès.
« Harry !»
couina Hermione.
« Qu'est-ce qu'on va ?»«
Stop !» tonna Harry,
la voix puissante de Ron Korn résonnant dans tout le hall. Les sorciers qui s'affairaient devant les cheminées se figèrent.
« Suivez-moi » murmura-t-il au groupe des Némoldus terrifiés qui s'avancèrent, serrés les uns contre les autres sous la conduite de Ron et d'Hermione.
« Que se passe-t-il, Albert ?»
demanda le sorcier au front dégarni qui était sorti de la cheminée derrière Harry à son arrivée dans l'atrium. Il paraissait nerveux.
« Tous ces gens-là doivent partir avant que vous fermiez les issues !» déclara Harry avec toute l'autorité dont il était capable.
Devant lui, les sorciers échangèrent des regards.
« Mais nous avons reçu l'ordre de sceller toutes les cheminées et de ne laisser personne... »«
Seriez-vous en train de me contredire ?» tempêta Harry. « Vous voulez sans doute que je soumette à examen votre arbre généalogique, comme je l'ai fait pour celui de Dirk Cresswell ?»«
Oh, désolé !»
balbutia le sorcier au fond des garnis, battant en retraite.
« Ah, je ne voulais rien dire, Albert, mais je croyais qu'il devait être interrogé et... »«
Le sang est pur !»
trancha Harry. Sa voix grave retentissait dans le hall d'une manière impressionnante.
« Plus pur que celui de beaucoup d'entre vous, je n'hésite pas à l'affirmer. Vous pouvez partir »
ajouta-t-il de sa voix de stentor à l'adresse des Némoldus qui se précipitèrent vers les cheminées et commencèrent à disparaître 2 par 2. Les sorciers du ministère se tenaient en retrait, certains perplexes, d'autres effrayés ou indignés, puis...
« Marie !»
Mrs. Cattermole jeta un coup d'œil derrière elle. Le véritable Reg Cattermole, qui ne vomissait plus mais restait pâle et défait, venait de sortir d'un ascenseur.
Reg ?
Elle regarda son mari, puis Ron, puis son mari, puis Ron, qui poussa un juron sonore. Le sorcier, au front dégarni, ouvrit grand la bouche, sa tête tournant alternativement vers l'un et l'autre des 2 Reg Cattermole dans un ridicule mouvement de va-et-vient.
Hé, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Bloquer la sortie ! Bloquez tout !»
Yaxley avait surgi d'un autre ascenseur et se précipitait vers l'endroit où s'était trouvé le groupe des sorciers nés moldus qui, à présent, avaient tous réussi à disparaître dans les cheminées, à l'exception de Mrs. Cattermole. Lorsque le sorcier au front dégarni leva sa baguette, Harry brandit un énorme poing et le frappa en plein visage, le projetant dans les airs.
« Yaxley, il a aidé des nés moldus à s'enfuir !» s'écria Harry.
Il y eut parmi les collègues du sorcier dégarni un véritable tumulte de protestations que Ron mit à profit pour entraîner Mrs. Cattermole dans la cheminée encore ouverte et disparaître avec elle. Déconcerté, Yaxley regarda tour à tour Harry et le sorcier assommé, tandis que le véritable Reg Cattermole hurlait
« Ma femme ! Qui était avec ma femme ? Mais qu'est-ce qui se passe ?»
Harry vit Yaxley tourner la tête. La vérité commençait à se faire jour sur son visage au trait grossier.
« Viens !» lança Harry à Hermione.
Il lui saisit la main et tous deux sautèrent ensemble dans la cheminée au moment où le maléfice que leur lançait Yaxley sifflait au-dessus de la tête de Harry. Pendant quelques secondes, ils pivotèrent sur eux-mêmes avant de jaillir d'un siège de toilette dans l'une des cabines. Harry ouvrit la porte à la volée. Près des lavabos, Ron continuait à se débattre avec Mrs. Cattermole.
Hey, je ne comprends pas.
Lâchez-moi, je ne suis pas votre mari. Il faut que vous retourniez chez vous.
Il y eut un bruit dans la cabine située derrière eux. Harry se retourna, Yaxley venait d'apparaître.
Filons, hurla Harry.
Il attrapa la main d'Hermione et le bras de Ron, puis tournoya sur place. L'obscurité les engloutit et ils eurent la sensation d'être serrés dans des bandelettes. Mais quelque chose se passait mal. La main d'Hermione semblait glisser de la sienne. Il se demanda s'il n'allait pas étouffer. Il ne parvenait plus à respirer ni à voir. Les seuls éléments solides qui existaient encore étaient le bras de Ron et les doigts d'Hermione qu'il sentait glisser lentement. Il distingua alors la porte du 12 couard Grimord, avec son heurtoir en forme de serpent. Mais avant qu'il ait pu reprendre son souffle, il entendit un cri et vit un éclair de lumière violette. La main d'Hermione se referma soudain sur la sienne, avec la force d'un étau, et les ténèbres l'aspirèrent à nouveau.